Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 2h en temps universel, 21h à Washington.
Mathis Limano.
Et cette pluie de réactions à la une après les déclarations choc de Donald Trump. Le président américain veut prendre le contrôle de la bande de Gaza et la transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Un projet hors sol et contraire au droit international qui inclurait l'expulsion des plus de 2 millions de Gazaouis. Mais un projet qui plaît parmi les soutiens du président, vous allez l'entendre. En France, par contre, on rejette l'idée. On est à l'Assemblée nationale, dans le journal où la classe politique est plutôt unanime. À suivre aussi le conflit dans l'est de la RDC et le sort des femmes qui préoccupent les organisations humanitaires, le viol comme arme de guerre redoutée par ces derniers. Et puis en Thaïlande, le gouvernement coupe l'électricité pour lutter contre les centres d'arnaque en ligne. Un projet révoltant et illégal selon Amnesty International. Les propos de Donald Trump provoquent un tollé et les condamnations de la communauté internationale. Le chef de la délégation palestinienne aux Nations Unies, Riyad Mansour, s'insurge. Les Gazaouis devraient être autorisés à se réinstaller dans leur maison d'origine au lieu d'être déplacés vers d'autres pays, comme le suggère le président américain. La nuit dernière, Donald Trump a dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza, assimilant l'enclave palestinienne à un chantier de démolition où il fallait faire partir tous les habitants pour se débarrasser des bâtiments détruits afin d'en faire, je cite, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Selon le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, l'offre de Trump sur Gaza est généreuse et pas hostile. Et aux États-Unis, David Thompson, le président, a ses soutiens.
Tout le monde aime cette idée, s'enthousiasme Donald Trump face aux journalistes au lendemain de son annonce de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Ses soutiens applaudissent en effet l'initiative. J'attends de connaître les détails du projet, dit le speaker de la Chambre Mike Johnson, mais c'est une décision audacieuse, il faut faire quelque chose pour éradiquer la menace contre Israël. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire si tout l'argent qui a été mis dans les tunnels et les munitions avait été mis dans l'innovation à Gaza, explique de son côté le gendre du président, Jared Kushner, qui serait à l'origine de ce projet. Le mieux, dit Kushner, est effectivement de faire sortir les gens de Gaza pour tout nettoyer. Dans les médias d'opposition, en revanche, c'est encore la sidération. Sur CNN, un éditorialiste se dit choqué que Trump puisse envisager Gaza comme une opération immobilière. Il a parlé d'une position de propriété des États-Unis sur Gaza, dit cet éditorialiste. Il serait plus juste de parler de colonialisme du 21e siècle. Dans le même temps, à la Chambre des représentants, les démocrates fulminent. Al Green, un élu du Texas, accuse même Donald Trump de complicité de nettoyage ethnique. Il demande le lancement d'une procédure d'impeachment contre le 47e président des États-Unis, qui n'a évidemment aucune chance d'aboutir. David Thompson, Miami RFI.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite rejette toute tentative de déloger les Palestiniens de leur patrie et indique qu'il n'y aurait pas de normalisation des relations avec Israël en l'absence d'un État palestinien, contrairement à ce qu'avait indiqué Donald Trump. Les déclarations du président américain qui n'en finissent plus de faire réagir, notamment en France, où la classe politique est plutôt unanime, Victorien Villaume.
Toujours alerte sur la cause palestinienne, l'heure est à l'inquiétude et à la vigilance pour les Insoumis, Arnaud Le Gall, député LFI, membre de la Commission des Affaires étrangères.
Trump confirme ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'il n'a jamais cru en un État palestinien. Et donc, il va au bout de la logique du gouvernement suprématiste de Netanyahou, qui est celui du nettoyage ethnique de Gaza. Il est grand temps que la diplomatie française se bouge pour défendre le droit international.
Donald Trump a-t-il oublié qu'il n'était plus promoteur immobilier, mais président des États-Unis, s'indigne l'écologiste Marine Tondelier. À droite, le député Philippe Juvin, sans la soutenir, rappelle que l'idée de transférer les Gazaouis en Jordanie n'est pas nouvelle.
C'est l'analyse que certains faisaient il y a 30 ans, en disant la Jordanie, c'est le pays où les Palestiniens devraient aller vivre. Et cette vision de Trump, en fait, elle ne vient pas de nulle part. C'est une vieille analyse qui, à mon avis, ne fonctionne pas, bien sûr.
La mise au point de l'exécutif français est arrivée en fin de matinée ce mercredi. Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
La France est opposée pleinement au déplacement des populations, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années.
Et d'ajouter, les déclarations de Donald Trump sont dangereuses pour le processus de paix et la stabilité dans la région.
Victorien Villaume, la chaise des États-Unis sera vide au sommet du G20 prévu dans 2 semaines. La réunion annuelle des économies les plus développées du globe va se tenir en Afrique du Sud, un pays qui fait de très mauvaises mauvaise chose, estime le secrétaire d'État Marco Rubio, pour justifier l'absence des États-Unis. Référence faite à une loi promulguée fin janvier par le président sud-africain permettant l'expropriation de propriétés privées. La question foncière reste très sensible dans le pays, la majorité des terres étant encore détenue par la minorité blanche. Et puis elle avait affolé les marchés américains. L'intelligence artificielle DeepSeek est bloquée en Corée du Sud sur les appareils du ministère de la Défense et du Commerce. Son accès n'est plus possible le temps que la start-up chinoise donne des explications sur son traitement des données utilisateurs, informent les autorités sud-coréennes. On en vient dans ce journal à l'inquiétude quant au sort des femmes dans l'est de la RDC. Il a fait l'objet d'une réunion mardi du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et leur situation est critique, estiment les experts. En cause, le viol comme arme de guerre, alors que les combats font désormais rage au sud Kivu et que la ville de Goma est passée sous contrôle du M23 et de l'armée rwandaise. Annie Maudit est directrice de l'association Afia Mama, qui milite notamment contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Elle a plusieurs fois alerté sur l'augmentation des viols sur les terrains d'affrontement.
Au 31 décembre 2024, j'ai publié une tribune justement pour démontrer que la résurgence de l'utilisation des viols et des violences sexuelles comme armes de guerre devenait de plus en plus un problème. Et la guerre ne devrait pas se finir sur le corps des femmes. Les corps des femmes ne sont pas les champs des batailles et que toutes les parties prenantes soient prises pour responsables des cas de viols commis dans les territoires qui sont sous leur contrôle, que ce soit le côté qui est contrôlé par les M23 ou d'autres groupes armés, ou la partie qui est contrôlée par le gouvernement. Parce que c'est vrai que le gouvernement a mis en place tous les mécanismes pour prévenir et pour prendre en charge et sanctionner ceux qui pourront commettre ce genre d'exactions. Mais cela n'empêche pour autant pas du tout certains récalcitrants de commettre des actes de violence sexuelle sur les femmes lorsqu'ils sont dans des affronts contre certains groupes rebelles.
Propos recueillis par Paulina Zidi. Les affrontements à Goma ont fait 2900 morts. Le président du Rwanda, Paul Kagame, dit avoir convenu avec l'Union européenne d'une désescalade dans l'est de la RDC, alors que dans le même temps, d'intenses combats ont repris dans le sud Kivu. Quel avenir pour Serge Atlaoui en France? Arrivé ce mercredi à Paris en provenance d'Indonésie, où il attendait dans le couloir de la mort depuis 17 années pour trafic de stupéfiants, cet artisan soudeur de 61 ans a été présenté à un juge français avant d'être envoyé en prison. Le temps que la justice adapte sa peine prononcée en Indonésie, son avocate annonce qu'elle va demander sa remise en liberté. Le quotidien français Le Monde dénonce l'expulsion déguisée de son correspondant en Russie. L'autorisation d'exercer du journaliste Benjamin Kennel, basé à Moscou depuis plus de 20 ans, vient d'être annulée par les autorités russes. Une décision sans précédent, une nouvelle entrave à la liberté d'informer en Russie, dénonce le directeur du journal. Enfin, on en vient à cette question. Que se passe-t-il en Birmanie? Plusieurs zones à la frontière avec la Thaïlande ont été plongées dans le noir ce mercredi. Une coupure de jus volontaire déclenchée par Bangkok, car c'est la Thaïlande qui alimente en électricité ces zones. Valentin Sébron, vous êtes correspondant en Thaïlande pour RFI et l'objectif du gouvernement, il est clair, c'est de lutter contre des centres d'arnaque en ligne installés dans la région.
C'est une mesure sans précédent. Ce matin, le gouvernement thaïlandais a coupé l'approvisionnement en électricité dans 5 localités en Birmanie, non loin de sa frontière nord, car certaines régions birmanes limitrophes de la Thaïlande sont bien connues pour héberger des triades chinoises impliquées dans un vaste réseau d'arnaques en ligne et de traite humaine. Le ministre de la Défense thaïlandais Pumtham Muchayachai a déclaré hier que les centres d'escroquerie en ligne ayant proliféré constituaient une menace pour la sécurité nationale du royaume. Chaque mois, la vente d'électricité dans ces zones birmanes rapportait à la Thaïlande 50 millions de baht, soit 1,4 million d'euros. Mais c'est peu face aux 550 000 cas d'arnaques signalés au cours des deux dernières années, qui représentent un montant de 86 milliards de baht, l'équivalent de 2,4 milliards d'euros. Il est donc probable que ces groupes criminels trouvent d'autres sources d'électricité qu'ils pourront évidemment payés étant donné les sommes astronomiques tirées de leurs activités crapuleuses. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Et puis pour refermer votre journal de la Coupe de France de football, plusieurs clubs de Ligue 1 ne verront pas les quarts de finale. Il s'agit notamment de Nice et Toulouse, éliminés de la compétition. après avoir perdu contre des équipes de division inférieure. La veille, c'est Dunkerque, équipe de Ligue 2, qui avait obtenu le scalp des Lillois. Dernière rencontre de ces huitièmes de finale ce jeudi, le Stade de Reims devra éviter de tomber dans le même piège lors de son déplacement à Bourgoin-Jallieu. RFI 3h10, à Paris 1h de moins, en temps universel. Tout de suite, c'est 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.